France Inter.
Jabeur s'est qualifié pour les quarts de finale en battant l'américaine Pera en deux manches. Le match entre Sorribes Tormo et Béatrice Haddad Maia n'est pas encore terminé. Ah si, à l'instant. C'est la brésilienne qui s'est imposée, Béatrice Haddad Maia. Chez les hommes, Casper Ruud tient le cap. Il a remporté difficilement les deux premières manches contre Nicolas Jarry, 7-6, 6-5. Et pour l'instant, eh bien, c'est Nicolas Jarry qui mène dans la troisième manche. Enfin, il s'est arrimé ce matin le long de la Seine à Paris, au pied du pont de Bercy, tout près de la BNF, le quai de la photo, nouveau centre d'art flottant dédié à la photographie contemporaine. Il proposera des expositions en accès libre et gratuit. Et son inauguration officielle aura lieu le 12 juillet prochain avec une exposition du Britannique Martin Parr qui parrainera un jeune talent. Le quai de la photo pourra accueillir à terme jusqu'à 900 personnes. France Inter, 15h03.
France Inter, 16h, Mathieu Noël.
Ce lundi, à chaque manif, on en entend parler, mais qui sont-ils vraiment derrière leur masque noir? Des gosses de riches, comme certains me disent. Zoom sur les Black Blocs.
Zoom Zoom Zen, tous les jours à 16h sur Inter.
Ma fille, je lui ai transmis ma peau sèche et sensible, et je lui ai appris à en prendre soin. Aujourd'hui, je la vois faire la même chose avec sa fille, et nous utilisons toutes les trois la même crème. Parce que la peau est aussi une histoire de famille, les laboratoires Aven ont développé la gamme Xeracalm, une solution efficace et sûre pour le soin de toutes les peaux sèches, même les plus sensibles. Recommandée par les dermatologues, Xeracalm nourrit et apaise les peaux sèches et sujettes à l'eczéma atopique. Othermal Aven, disponible en pharmacie et en parapharmacie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur othermalaven.fr.
France Inter, partenaire du Festival international du film d'animation d'Annecy. L'événement mondial dédié au cinéma d'animation pour les professionnels et le grand public. Plus de 500 films projetés, avant-premières, courts et longs métrages, réalité virtuelle et images exclusives en présence d'auteurs reconnus, jeunes talents et grands studios. Avec cette année, un hommage à l'animation mexicaine. Le Festival international du film d'animation d'Annecy, du 11 au 17 juin, un événement France Inter.
Et sur France Inter, c'est Fabrice Drouel avec Affaires Sensibles. Bonjour Fabrice.
Bonjour Laetitia Gaillet.
Vous êtes très beau aujourd'hui, voilà.
Merci, c'est ce que voulait dire ce sourire. Voilà. Eh bien je le prends. A tout à l'heure à 16h pour un prochain flash. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Jean-Claude Bonnal dit le chinois, une ombre sur la campagne présidentielle de 2002. Le chinois n'est pas fiché au grand banditisme. Il n'est pas l'un de ces beaux mecs, comme disent les flics à propos des grands voyous. Non. Bonnal, c'est plutôt une succession de vols et de cambriolages mal ficelés qui se terminent régulièrement en prison. Mais en octobre 2001, en 10 jours d'intervalle, 2 braquages ont lieu dans la banlieue parisienne, à Tismons et au Plessis-Trévise. Le bilan est sanglant. 6 personnes sont tuées, dont 2 policiers. Une fois reliés, ces homicides ont un point commun, Jean-Claude Bonnal, qui a fait partie des 2 commandos. 2 faits dramatiques qui vont alimenter le débat national à quelques mois de l'élection présidentielle de 2002, parce que Bonnal se retrouve en liberté conditionnelle. Dans l'attente d'un procès pour un braquage précédent, il était sorti de prison 1 an avant. Comment la justice a-t-elle pu laisser cet homme dehors? La question tourne en boucle chez les policiers endeuillés qui crient à l'anomalie procédurale. Derrière le cas du récidiviste Bonnal, c'est la mécanique de la prise de décision des magistrats qui se retrouve ciblée. Le laxisme judiciaire, réel ou supposé, fait recette et la sécurité entre avec fracas dans les thèmes de campagne pour la présidentielle. Notre invité aujourd'hui, Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Jospin de 2000 à 2002. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Judith Chétrit, coordination Franck Cognard. Chargée de programme Rebecca Denante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Janvier 2006, une adolescente témoigne devant la cour d'assises du Val-de-Marne. Elle s'appelle Sandra. Elle a 13 ans, elle est la seule survivante de la tuerie du bar-tabac d'Atis-Mons, 4 ans avant. Ses parents, les propriétaires du Fontenoy, Gildo et Maria Luisa Alves, ont été tués aux côtés de Virginie, la serveuse, et d'Albertina, la femme de ménage. Le public de la salle d'audience est pétrifié, écrit le journaliste du Parisien. L'adolescente doit raconter chaque souvenir, chaque image, chaque détail. Le 6 octobre 2001 au soir, Sandra s'est déjà mise en pyjama. Elle regarde la télé avec sa mère dans l'une des pièces de ce commerce familial en bordure de la Nationale 7, au sud de Paris. Le bar est sur le point de fermer. Son père a déjà baissé de moitié le rideau de fer. Il ne reste plus que quelques clients qui s'attardent au comptoir pour regarder le match du Portugal face à l'Estonie en éliminatoire du Mondial. Entendant un bruit, la mère de Sandra se lève. Un homme arrive vers elle et la vise de son arme. C'est un braquage qui se terminera en bain de sang. Devant la cour d'assises, la jeune fille de 13 ans affirme avoir distingué le visage d'un seul agresseur, celui qui l'a attaché, à part des adultes. Il a une cicatrice bien visible près de l'œil droit. Les yeux de Sandra sont bandés, ses mains attachées. Elle est ligotée sur une chaise dans les toilettes. Sa mère et les employés sont ensuite conduites dans la cave sous la contrainte. Et elle entend sa mère crier « Épargnez ma fille ». Et puis, il y a des détonations. Ensuite, les braqueurs repartent après avoir vidé la caisse. Le montant est dérisoire, 7000 francs, un peu plus de 1000 euros. Sandra se détache, puis descend la cave. Le braquage a tourné au carnage. Elle découvre 4 cadavres, son père, sa mère et leurs 2 employés, tous assassinés d'une balle dans la tête, comme en témoigne son avocat Raymond Boucher.
Elle vient apporter son élan de vérité, de sincérité, de jeunesse, dans un procès tout de même très macabre. Tous les experts nous ont confirmé qu'ils n'avaient jamais vu une telle tuerie faite de cette façon. Elle veut surtout défendre ses parents et la mémoire de ses parents. Et qu'elle agit comme si ses parents étaient encore présents et qu'elle veuille continuer ce qu'il lui aurait demandé de faire.
Dans le box des accusés, derrière les vitres de plexiglas, Sandra désigne implacable un homme, une voix. C'est lui. Une voix, ça ne s'oublie pas.
Elle l'a entendu parler d'une manière assez violente et elle a reconnu sa voix.
Parce qu'il était cagoulé.
Parce qu'il était cagoulé et elle a précisé que sous la cagoule, il y avait des lunettes qui cachaient son visage.
Cette voix, c'est celle de Jean-Claude Bonal, dit le Chinois. Il est d'origine vietnamienne, mais le raccourci est facile et le surnom lui reste. Ce sera son nom de voyou. Bonal a commencé les braquages 30 ans plus tôt. Il les a enchaînés. Ses condamnations couvrent 3 pages des fichiers de police. À Vitry-sur-Seine, où il a grandi, il est considéré comme un second couteau du gang de la banlieue sud. Il est même vu dans le milieu comme un mouton noir, autrement dit, incapable de monter une opération sans se faire prendre, selon le journal Le Parisien. Bonal enchaîne les arrestations, mais ne raccroche jamais vraiment pendant ses courtes périodes de liberté.
À 49 ans, il a déjà été condamné à 29 années de prison. La justice le repère dans les années 70. C'est une petite main du gang de la banlieue sud, un porteur de flingue. Il est condamné en 79, en 85 et en 91 pour des vols et une tentative de meurtre. Jean-Claude Bonal est considéré par les enquêteurs comme un has-been, un homme qui a fréquenté le grand banditisme, qui s'est marié en prison, mais qui n'a jamais été une tête et qui est devenu un marginal, arrêté vendredi dans un hôtel miteux du Val-de-Marne. Jean-Claude Bonal, l'éternel braqueur, tombé dans les petits coups pour avoir raté sa reconversion.
Retour devant la cour d'assises en ce mois de janvier 2006. Bonal et ses complices sont toujours dans le box des accusés, mais les magistrats ouvrent un autre dossier que celui de la tuerie d'Athis Mons. Un second braquage qui s'est déroulé 10 jours après la tuerie de Fontenoy. Il est 7h du matin en ce 16 octobre 2001. Deux voitures de commissariat de Chennevières foncent pour un cambriolage dans un pavillon avenue de la Sirène, au Plessis-Trévise. Sans gyrophare ni sirène pour ne pas se faire entendre. Ce qu'ils veulent, c'est le flagrant délit et surtout éviter que la situation ne leur échappe s'ils sont repérés. Car sur place, plusieurs hommes se sont introduits dans la maison. Ils ont ligoté les parents et leurs 2 enfants, mais ils ignorent la présence d'une nièce cachée dans la salle de bain. Et c'est elle qui a appelé le 112.
La brigade avait reçu un appel au secours d'une jeune fille cachée dans cette villa. 5 malfaiteurs avaient pris en otage 4 personnes. Ils cherchaient de l'argent. Les policiers entendent des cris. Ils n'ont pas le temps de mettre leur gilet pare-balles. Très vite, ils interpellent un des cambrioleurs en fuite. Ils ne voient pas son complice qui leur tire dans le dos.
Sans pouvoir riposter, 3 policiers sont visés par les balles. Le gardien de la paix, Yves Meunier, 27 ans, meurt sur le coup. Le brigadier Patrick Leroux, 34 ans, décède quelques heures plus tard à l'hôpital. Et le 3e policier, Lionel Levesque, 28 ans, est grièvement blessé. Les braqueurs, eux, réussissent à s'enfuir. Sauf un, blessé par les tirs d'un de ses complices, qui se cache entre deux voitures. L'un des policiers dit avoir aperçu un individu de type asiatique en train de fuir. Oui, de type asiatique. Dans le bar-tabac d'Atis-Mons, comme dans le jardin du pavillon du Plessis-Trévise, les circonstances des assassinats sont glaçantes. Les enquêteurs ne comprennent pas immédiatement que les deux affaires sont liées. D'ailleurs, à la PJ, on pense que les meurtres d'Atis-Mons sont un règlement de compte pour une histoire d'une machine à sous clandestine. Bref, une guerre de truands. Le Plessis-Trévise, c'est une autre affaire. C'est un cambriolage qui dégénère. Mais l'enquête sur la tuerie du bar-tabac d'Atis-Mons avance, grâce à un indice. Il fournit même un numéro de téléphone, celui de Bonal. En examinant les relevés, les enquêteurs découvrent que le téléphone a borné le jour des faits près du café, puis, le lendemain, près d'un distributeur où une carte bancaire volée la veille a tenté d'être utilisée. Donc la surveillance se resserre, et la cavale est sur le point de se terminer. Bonal est repéré dans un hôtel de Villeneuve-le-Roi, où il se cache avec sa maîtresse du moment. Le 19 octobre, jour des obsèques des policiers tués, le Chinois et cinq de ses complices sont interpellés en région parisienne. Au bout de leur garde à vue, ils sont mis en examen pour séquestration en bande organisée, homicide volontaire et vol avec violence, ayant entraîné la mort et écroué, bien sûr.
Cette enquête a débouché grâce à des portraits robots et elle ouvre une piste jugée sérieuse pour le meurtre des policiers au Plessis-Trévise. Cette piste, c'est Jean-Claude Bonal. Il a été dénoncé, entendu vendredi par les hommes de la brigade de répression du banditisme. Plusieurs analyses scientifiques sont en cours, dont des analyses génétiques.
Dès ce 22 octobre, on comprend que les drames d'Atis-Mons et du Plessis-Trévise sont peut-être liés. Les suspects, eux, nient ou minorent les faits. Quand ils ne se murent pas dans le silence. Pendant des heures, par exemple, Jean-Claude Bonal ne dira rien d'autre que son nom et son prénom. Le 21 octobre, le procureur d'Evry, Jean-Michel Durand, fait un point.
Le seul qui est passé aux aveux est le nommé Boissoun. Et il a mis en cause ses deux comparses, lesquels contestent absolument les faits qui leur sont reprochés. L'arme n'a pas été retrouvée. Et vous imaginez bien que les investigations continuent et sont toujours en cours.
Dès le début de la procédure, il y a Bonal et les autres. Parmi tous les suspects, il est le plus âgé. Il est également celui qui a le plus de mentions sur son casier judiciaire, celui qui a connu le plus de séjours en prison. Fresnes, Saint-Maur, Fleury-Mérogis. Et puis, même s'il n'a jamais été accusé d'homicide volontaire, il est connu pour avoir la détente facile. Alors, le Chinois, cet automne-là, est aux yeux des policiers et de l'opinion publique plus qu'un visage dans les journaux. Il est le symbole de l'insécurité dans un pays où s'enchaînent des faits divers sordides. 6 morts en Ardèche, 4 à Amiens. Et puis les policiers apprennent que le Chinois a été libéré sous caution 9 mois plus tôt, sur décision de 3 magistrats de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Cette remise en liberté conditionnelle est vivement décriée. Mais pourquoi cette clémence des magistrats? Sa dangerosité et ses récidives ne suffisaient-elles pas pour justifier son incarcération? Les policiers y voient la preuve que des drames auraient pu être évités. Car depuis décembre 1998, Bonal était en détention provisoire pour un autre braquage, commis avec un acolyte au guichet d'un bureau de change au printemps Haussmann. Dans leur fuite, un passant qui tentait de les rattraper avait été grièvement blessé. Mais au bout de 2 ans, sa détention provisoire n'avait pas été prolongée. Alors, les syndicats de police montent au créneau et désignent leurs cibles. La justice, les magistrats, les procédures. Comme ici le 22 octobre, par la voix du secrétaire général de Synergie Officier, Bruno Béchiza.
Personne ne peut comprendre que des individus qui ont commis des crimes de sang ou des délits de sang, qui ont blessé d'autres personnes, puissent se retrouver dehors, dans la nature, au simple motif de problèmes procéduraux. Avec l'insécurité telle qu'elle se vit, on ne peut pas comprendre que la forme de la procédure prime sur le fond.
Et c'est ainsi que par médias interposés, une guerre police-justice débute. Les policiers parlent d'impunité. Dominique Matagrin, président de l'Association professionnelle des magistrats, répond.
Les magistrats ne sont pas des boucs émissaires et les policiers se trompent de cible. Ce sont les politiques qui font des lois contre la détention provisoire et qui font pression sur la justice pour la culpabiliser parce qu'elle recourt trop facilement, d'après eux, à la détention provisoire.
La colère des policiers vise la justice en général et les magistrats de la chambre d'accusation en particulier. Les magistrats qui ont signé la remise en liberté du Chinois. Jean-Paul Laurence, le président de la Chambre, s'en explique dans Le Figaro et évoque le travail du juge d'instruction dans le dossier du braquage du bureau de change.
Pour justifier une prolongation de détention provisoire, le juge d'instruction doit indiquer des motifs sérieux et prévoir un délai d'achèvement de sa procédure. Dans le dossier Bonal, ces deux conditions faisaient défaut. La détention provisoire n'a pas vocation à éliminer les gens, à les mettre hors du circuit social. À moins de rétablir la peine de mort ou la perpétuité systématique, personne n'a jamais l'assurance qu'un individu ne récidivera pas.
Mais la réponse du magistrat ne suffit pas à calmer les forces de l'ordre. Le 23 octobre, 8 à 10 000 policiers descendent dans la rue à l'appel de leur syndicat, qu'ils soient gardiens de la paix, officiers ou commissaires. À Créteil, leur cortège est sans slogan, sans banderole. Certains ont accroché au dos de leur blouson une cible. On peut y lire, on n'est pas des lapins. Le père de l'un des policiers tué lit une lettre à l'intention des pouvoirs publics. Dans cette affaire, c'est l'autorité de la police qui est en jeu. Et en cet après-midi du 23 octobre 2001, l'enquête rattrape les policiers pendant la manifestation. Aujourd'hui, Jean-Claude Bonal dit le chinois.
France Inter, affaires sensibles.
Les expertises génétiques ont parlé. Jean-Claude Bonal dit le chinois est bien impliqué dans le double meurtre des policiers au Plessis-Trévise. Les analyses effectuées par la police technique et scientifique auraient permis de retrouver des traces de sang de Bonal sur une des grilles du jardin. Autre indice exploité par les enquêteurs, un gant et une cagoule, ainsi que le chargeur de son arme. Un pistolet Beretta retrouvé sur place.
Ce que les enquêteurs pressentaient est désormais un fait. Les tueries d'Atis-Mons et du Plessis-Trévise sont bel et bien liées. Et Jean-Claude Bonal est au cœur des deux affaires. Sur la scène de crime du 16 octobre, près du corps des deux policiers tués, un gant noir a été récupéré. Il contient l'ADN du Chinois. Le soir même, une équipe de TF1 se rend à l'hôpital où est soigné le troisième policier, Lionel Levesque, grièvement blessé. Devant la caméra, il témoigne.
Mes amis, les collègues, c'est des blessures qui se referment à jamais. On est arrivé sur place, mes collègues ont donc réussi à attraper un des individus qui faisait le guet. Nous, on est venus en renfort, on a aidé à menotter. Hein. Et puis, deux individus ont survécu, dont un avec une arme de poing, et puis nous a tiré dans le dos lâchement. Hein. Si on le savait, quand on fait un métier comme ça, on ne sait jamais s'il se trouve derrière la porte. Et là, ce jour-là, on est tombé sur quelque chose de très grave et très important. Et on a été, je n'ai pas pris vitesse, mais face à des tueurs déterminés. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi un individu ou des individus, ayant des palmarès comme les heures, hein, se retrouvent encore dehors à cette heure-ci.
Bien sûr, ces deux affaires ne font que renforcer la polémique. Et c'est au tour de la loi Guigou sur la présomption d'innocence d'être violemment critiquée. Cette loi, portée par la ministre de la Justice, votée quelques mois auparavant, ne serait-elle pas la vraie raison de la libération conditionnelle de Jean-Claude Bonnal, après tout ? Elle prévoit, cette loi, notamment, de réformer les règles de la détention provisoire pour renforcer le droit des prévenus. Nouvelle cible facile, mais pas la bonne. Car cette loi est censée s'appliquer dès janvier 2001. Or, Bonnal a été libéré dans l'attente de son procès le mois précédent. Donc, policiers, journalistes et experts se tournent ailleurs et scrutent les petites lignes des textes qui régissent la détention provisoire. En fait, dans l'affaire du braquage du bureau de change, Bonnal a bénéficié par ricochet de la remise en liberté de l'autre prévenu, Mohamed Benamara. Dans un reportage de l'époque, son avocate Marie-Alix Canu explique s'être appuyée sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et plus précisément sur les délais d'attente avant un jugement.
Il s'agit de la stricte application du code de procédure pénale sans que ce soit une nullité, sans que ce soit l'application de la loi Guigou comme il a été dit, mais uniquement le fait que des mesures d'instruction et notamment une mesure d'expertise a été extrêmement longue, a mis plus d'une année, et qu'à la suite de cela, les juridictions ont constaté certaines carences dans les mesures d'investigation et en conséquence, ils ont appliqué la loi. On attendait un rapport d'expert, qui était un rapport tout simplement sur une expertise ophtalmologique. Nous n'avons toujours pas eu le rapport. À la suite de cela, le juge d'instruction a décidé de passer outre pour quand même aller dans le sens des délais raisonnables. Il a fermé le dossier sans attendre ce rapport, alors qu'il motivait le maintien en détention sur ce rapport qu'on attendait. Par conséquent, ça devenait totalement incohérent.
Comme à chaque fois qu'un fait divers déclenche une forte émotion, qu'il déchaîne les passions, qu'il occupe les JT et la presse, les politiques s'emparent du sujet. En pleine cohabitation, il y a quelques mois surtout de l'élection présidentielle de 2002, le Chinois est donc au cœur des débats à l'Assemblée nationale. Et face aux députés de l'opposition, même le Premier ministre socialiste Lionel Jospin critique cette décision.
Beaucoup, et notamment des policiers, ont exprimé un sentiment de révolte, je le comprends et je le partage. Les magistrats de la chambre d'accusation, usant de leur pouvoir d'appréciation, ont pris cette décision contraire aux réquisitions du procureur général qui préconisait, lui, le maintien en détention. Certes, il s'agit d'une décision souveraine du juge du siège, je le rappelle aux législateurs que vous êtes, sur un cas individuel, mais force est de constater qu'a été commise une dramatique erreur d'appréciation.
Pas encore officiellement candidat, Lionel Jospin sait le terrain sensible. Il faut donc donner des gages au syndicat de police sans donner l'impression de revenir en arrière. Alors il demande au député Julien Drey une mission d'évaluation sur les difficultés de la mise en place des nouvelles dispositions de la loi sur la présomption d'innocence après une première année d'application. Après avoir diminué de 20% pendant une année, le nombre de détenus provisoires grimpe de nouveau. Chacun de leur côté, les ministères de l'Intérieur et de la Justice défendent leur périmètre et montent au créneau. Ces dramatiques faits divers tournent à l'affaire d'État. Chaque maillon de la chaîne judiciaire est passé au crible Est-ce un dysfonctionnement? Un manque de moyens? Et au-delà de l'affaire Bonal, d'autres faits sont tout autant médiatisés. La délinquance des jeunes, la grande criminalité, les menaces terroristes, le renforcement du plan Vigipirate. Le sentiment d'insécurité s'impose comme l'une des préoccupations des Français. L'affaire offre surtout à la droite une tribune pour critiquer l'action de la gauche en termes de sécurité. Le RPR s'en saisit pour réclamer une abrogation de la loi sur la présomption d'innocence, une loi que les députés de droite pourtant avaient votée en juin 2000. En déplacement à Nîmes, le président Jacques Chirac s'en prend, je le cite, « au manque d'autorité de l'État et au manque de volonté politique ».
Les phénomènes d'insécurité ont en effet franchi un palier inacceptable. Pour réagir avec efficacité, nous devons nous en tenir à un principe simple et robuste, susceptible d'être entendu et compris de tous, susceptible d'être accepté par tous. Et nous ne devons pas seulement le proclamer, mais l'appliquer effectivement. Et ce principe de responsabilité, c'est qu'à toute violation d'un interdit doit correspondre une sanction immédiate et proportionnelle à la gravité de la faute. Alors qu'aujourd'hui, les représentants des forces de l'ordre sont les premières cibles d'actions criminelles qui ne connaissent plus de limites, je voudrais réaffirmer à ces forces de l'ordre toute ma confiance et leur dire au nom des Français mon entière solidarité dans l'exercice de la plus exposée des missions du service public. Et je veux rendre hommage aux policiers qui, récemment encore, sont tombés en voulant protéger leurs concitoyens.
Fin octobre 2001, le PS, dirigé par François Hollande, organise un colloque à Évry. Intitulé « Mieux prévenir, mieux punir », Julien Dray, le secrétaire national chargé des questions de sécurité, martèle « Ce sujet ne doit pas être un impensé, un tabou pour la gauche ».
Nous, quand on est arrivé au pouvoir en 97, on a dit priorité à la lutte contre le chômage. Et c'est vrai qu'on a pensé qu'à partir du moment où on redonnait du boulot aux gens, une partie de l'insécurité, elle allait tomber. On se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi une crise morale de la société, des valeurs qu'il faut réapprendre. Ben, on se dote maintenant des armes nécessaires.
Sauf que la grogne des policiers ne faiblit pas. Pendant tout le mois de décembre, leurs syndicats continuent de protester contre d'autres décisions judiciaires qu'ils considèrent comme des bavures supplémentaires. Dans les mois qui suivent, le gouvernement multiplie les annonces. De nouveaux équipements, de nouvelles voitures, de nouveaux uniformes. Mais 6 mois, jour pour jour, après le braquage du Plessis-Trévise, et à quelques jours du premier tour de la présidentielle, les policiers sont de nouveau dans la rue. À l'image de Jean-Paul Gentil, le chef de la brigade à laquelle appartenaient les deux policiers tués.
Jean-Paul Gentil dit de lui-même qu'il est un vieux flic, qu'il s'était préparé à ça, et un jour c'est tombé sur ses hommes, sur lui. Il est le chef de la brigade du Plessis-Trévise, sa brigade décimée, ajoute-t-il.
Nous savons que vivre l'uniforme nous expose à tomber. Le sacrifice de nos collègues ne doit pas rester vain. Nous tous, au service de la protection et de la sécurité, relevons la tête et rendons hommage par la même occasion à toutes les personnes victimes de la violence. Nous pouvons effectivement parler de laxisme. Ce laxisme devient incontournable dans sa propagation.
Les policiers ne comptent rien faire avant de connaître le nom du futur président, mais rapidement ils vont refaire parler d'eux pour que l'insécurité ne reste pas qu'un thème de campagne.
8 mois après les 6 morts d'Atismos et du Plessis-Trévise, c'est l'électrochoc. Jean-Marie Le Pen accède au second tour de la présidentielle. D'autres actualités ont pourri les débats, l'insécurité masquant le reste. L'agression de Papivoise, à quelques jours du 21 avril 2002, la tuerie au conseil municipal de Nanterre alimente le malaise. L'agitation politico-judiciaire se calme un temps, avant de reprendre, quand Bonal comparut une première fois. Oh, ce n'est pas forcément le fond de l'affaire qui intéresse. En ce mois de février 2003, il est devant les assises pour le braquage du bureau de change du printemps Haussmann, l'affaire dans laquelle il a été libéré. Non, ce qui intéresse ce jour-là, c'est le Chinois lui-même.
Dans le box, avec son visage de trentenaire malgré ses 50 ans fêtés il y a 3 jours, Jean-Claude Bonal ne ressemble ni à un monstre, ni à une brute. Son parcours et sa personnalité en font un personnage peu saisissable. De son histoire, il sait en jouer sans appuyer dessus. Il évoque les camps de réfugiés qui accueillent les 15 membres de la famille quand elle fuit le Vietnam. Il parle du racisme à l'école où il commence à se battre. Il dit qu'ensuite, tout bascule à la mort de 2 de ses frères brûlés vifs dans un incendie. L'autre pan de sa vie, c'est la prison, la deuxième famille. famille, dans laquelle il passe plus de la moitié de son existence. Prison qui le poursuit dehors quand il cherche un emploi dans cette société à qui il en veut, au point de s'emporter soudain contre l'avocat général. Jean-Claude Bonnal, routard des cours d'assises, semble flairer les pièges et l'enjeu du moment. Il prend le soin très vite de dénoncer le traitement de son affaire dans la presse en parlant d'une machination et d'une cabale. À petite touche, il dresse son portrait, victime de la société, victime des policiers.
Le Chinois continue de nier sa participation à ce braquage. Pour lui, l'arme et l'argent retrouvés à son domicile sont insuffisants pour prouver sa culpabilité. L'un de ses avocats, Henri Jurami, déplore le label Bonnal. Tout lui serait mis sur le dos de manière automatique. Parce qu'il est le Chinois, parce qu'il est celui qui éclipse les autres prévenus, parce qu'il est celui dont les actes et le parcours sont devenus une affaire politique. Condamné en première instance à 18 ans de prison pour ce hold-up, il sera finalement acquitté en cour d'appel l'année suivante, en 2004. La pauvre qualité des images extraites de la vidéosurveillance et quelques témoignages changeants ont affaibli le dossier. Le procès commun en braquage et meurtre d'Athis Mons et du Plessis Trévise aura lieu 2 ans plus tard, en 2006, devant la cour d'assises du Val-de-Marne. Bonnal comparé avec 5 autres accusés. Avant que les jurés ne partent délibérer, il n'adresse pas d'excuses aux victimes, mais demande aux jurés d'être justes, d'écouter la voix du bon sens et du cœur, et de ne pas se laisser influencer par qui que ce soit. Au bout du compte, Jean-Claude Bonnal est condamné à la réclusion à perpétuité pour les 6 meurtres, dont une peine de sûreté de 22 ans. Ses co-accusés écopent, eux, de 8 à 25 ans de prison. En 2007, sa condamnation est confirmée en appel. « 22 ans après les faits, cette affaire a laissé des traces dans les rangs de la police et de la justice. Comme une cicatrice jamais vraiment refermée. Non, la méfiance perdure. Les accusations sont faciles d'un côté comme de l'autre. Les juges seraient trop laxistes, les policiers pas assez précis dans leurs enquêtes. Et c'est là l'ironie de l'histoire. Malgré leur antagonisme, les deux institutions sont condamnées à vivre ensemble. »
Je rôde, je traverse des foules, des familles affolées dont les yeux effarés me refoulent sans égard. Je croise des regards, des jambes décroisées aux terrasses des bars, des joggeurs terrassés par effort. Je rôde pour 3 fois rien d'émeraude, pour quelques paroles échangées. Pour quelques coups de bol, je suis les rangées de pivots jusqu'à l'acropole. Je me faufile entre les bagnoles, je prends des coups de boule et je roule. Je ramasse des poules, je pile au carrefour et les feux que je brûle marcheront un jour un rôle. Je suis infatigable car je sais qu'à l'arrêt toute chose est dispensable. Oh, je n'ai qu'une idée, continuer. Je rôde pour 3 fois rien d'émeraude, pour quelques paroles arrachées, pour quelques coups de bol. Je suis les rangées de pivots jusqu'à l'acropole. Je me faufile entre les bagnoles, je m'éraude, m'éraude. Je rôde pour 3 fois rien d'émeraude. Oh, je m'éraude, je m'éraude. Tu me dis t'as pas d'école, tu me dis fais une pause, tu me dis fais une pause, tu me dis fais une pause. Mais si mes jambes s'enculent, qu'est-ce que tu me proposes? Oh, si mes jambes s'enculent, qu'est-ce que tu me proposes? Oh, si mes jambes s'enculent, qu'est-ce que tu me proposes? Oh, si mes jambes s'enculent, qu'est-ce que tu me proposes? entre les bagnoles. Je m'éroule, je m'éroule.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Bonal, dit le Chinois. Notre invité, Daniel Vaillant. Bonjour.
Bonjour.
Ancien député de Paris, surtout ministre de l'Intérieur entre 2000 et 2002 au moment des faits, ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Lionel Jospin. Comment avez-vous analysé ce malaise et comment avez-vous réagi à ce mouvement des policiers, vous qui étiez ministre de l'Intérieur, donc le ministre, entre autres, hein, de la police ?
Écoutez, j'ai entendu votre reportage et je n'ai pas grand-chose à redire, notamment les réactions, bon, celles de Jacques Chirac. Bon, on pouvait se douter en campagne électorale, on ne s'interdit rien. Mais j'ai réentendu celle du Premier ministre à l'Assemblée nationale qui a parlé d'une erreur d'appréciation tout à fait dommageable. Et donc, quelque part, il donnait raison à ceux qui critiquaient cette erreur d'appréciation, notamment après que le Chinois, Jean-Claude Bonal, ait participé quand même à un braquage à un guichet de change au printemps. Il n'aurait pas dû bénéficier de cette, je dirais, clémence. C'est-à-dire, il aurait dû être à l'abri de ses propres turpitudes, c'est-à-dire qu'il aurait été en prison et il n'aurait pas, du coup, fait ce carnage avec d'autres à Tismons, dans le café, avec quatre personnes, et les deux policiers, quelques jours après, qui sont aussi morts dans des conditions effroyables. Avec manifestement toujours la même présence de M. Bonal. Voilà pourquoi je pense que la loi présomption d'innocence était juste, d'ailleurs la droite l'a votée, mais il y avait des, comme on dit vulgairement, des trous dans la raquette. Et je sais, par exemple, que le fait que la récidive, à l'époque, intervienne peu dans le jugement, est un problème. Je me souviens avoir dit devant le Premier ministre qu'un jeune de Toulouse avait mis le feu à 30 voitures. Eh bien, il était jugé pour un vol un incendie de voiture, alors qu'il aurait dû, à partir du moment où il y a récidive, il y a aggravation, y compris de la peine, et donc la mise à l'écart de la société. Voilà pourquoi je pense qu'il fallait, comme Julien Del l'a préconisé, à travers la mission qui lui a été confiée, de corriger cet aspect des choses. Bon, il y a eu d'autres drames. Hein. Nanterre, c'était la folie, la psychiatrie qui a conduit celui qui était à l'origine de ces meurtres, de ces assassinats d'élus municipaux. Et puis, il y a eu Papivoise, comme vous l'avez dit dans votre reportage.
Ça, c'était très important,
avant,
bien sûr.
L'élection présidentielle. Bon, c'était un sujet d'exploitation que la droite et l'extrême droite n'ont pas manqué d'utiliser à des fins politiciennes et électorales.
Oui, mais Daniel Vaillant, pardon, avec un peu votre concours, pas vous personnellement, mais quand Lionel Jospin dit ça, quand plus tard il dit j'ai fait preuve de naïveté, pourquoi mettre en avant le mythe selon lequel la gauche ne sait pas y faire sur le terrain de la sécurité par rapport
je
à ses valeurs ?
Vraiment, connaissant bien le Premier ministre de l'époque, et encore aujourd'hui, je ne crois pas qu'il avait quelque laxisme que ce soit en tête. Alors c'est vrai qu'au sein de la gauche, il y a eu des discussions, voire des polémiques, et moi, j'ai été traité de sécuritaire. J'ai même commis un livre qui s'est appelé « Sécurité, deux points, priorité à gauche ». Voilà, donc j'ai osé faire ça, mais à mon avis, j'étais tout à fait dans mon rôle, parce que, quelque part, la sécurité est un élément pour corriger les injustices de la vie. Voilà, je suis et je réaffirme que le mot sécurité ne doit pas faire peur à la gauche, elle doit faire peur aux délinquants. Et moi, je ne suis pas pour laisser la droite, l'extrême droite, quelques syndicats de policiers mal intentionnés, essayer de discréditer une gauche qui n'a pas démérité, elle est républicaine et elle veut que les sanctions tombent, qu'elles soient réparatrices, bien sûr, et il faudrait revoir sans doute le fonctionnement des prisons, leur but, parce qu'il est, vrai, il est juste que la peine doit concourir à la réinsertion. Mais il ne peut pas y avoir, dans le doute, il ne peut pas y avoir de laxisme, quel que ce soit. L'affaire du printemps est révélatrice quand même d'un dysfonctionnement, en tout cas d'une erreur d'appréciation.
Daniel Vaillant, le laxisme réel ou supposé de la justice, c'est quand même une vieille lune. On a vu notamment, très récemment, après les manifestations de Gilets jaunes, après les manifestations contre le projet de loi de retraite, des comparutions immédiates, et on a puni à tour de bras. Comment sortir de ce préjugé, de cette idée reçue, de ce lieu commun selon lequel la justice serait laxiste? Elle ne l'est pas.
Je pense que la justice est dans son rôle quand elle sanctionne, quand elle prévient, et je pense qu'on n'a pas à la critiquer pour cela. Et quand elle agit dans le sens du droit, de la liberté des autres, je pense qu'elle travaille bien. Je pense que la justice ne peut pas être critiquée à tout bout de champ, comme cela est le cas pour certains, parce que, encore une fois, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, et elle dispose d'un certain nombre de moyens qui lui permettent de juger juste. En revanche, quand il y a des erreurs d'appréciation qui conduisent à des drames et à des exploitations politiciennes, eh bien, là, il faut corriger le tir. Ce n'est pas normal que des magistrats... même si leur souveraineté et leur indépendance doivent être absolument respectées, je ne crois pas qu'il soit raisonnable de considérer qu'on est dans le flou, au bénéfice d'une capacité de réinsertion, on va le laisser dehors. Eh bien, le Chinois, M. Bonal, est resté dehors et il a participé à des assassinats monstrueux. Voilà pourquoi je pense qu'il faut être ferme et juste.
Daniel Vaillant, je rappelle que les 5 ans du gouvernement Jospin, dont vous faisiez partie, a profondément réformé la France. Je cite quand même le Pax, les 35 heures, la loi sur la présomption d'innocence, la police de proximité, et j'en oublie. Donc c'était quand même une...
Enfin, la police de proximité, M. Sarkozy, d'un revers de main,
c'est bien.
Oui,
tout à fait.
Hélas.
Bon, en tout cas, il y a eu une œuvre.
Et vous savez pourquoi? Au nom du fait que les chiffres montaient, ce qui démontrait que cette police de proximité, elle faisait du bon boulot, puisqu'elle ne laissait rien passer. D'ailleurs, un procureur m'a dit « Ah ben oui, monsieur le ministre, votre loi, c'est bien gentil, la police de proximité, mais elle fait monter les chiffres. » Oui, c'est vrai, mais elle commençait petit à petit à faire baisser les chiffres. Je dis ça au passage parce que les critiques sont faciles à faire, mais je constate que rien n'a changé vraiment, l'insécurité, elle est encore là. Je ne crois pas du tout à la thèse de l'insécurité zéro. Mais je pense qu'on peut être plus efficace en étant plus juste. Tout simplement, la justice est un gage de sécurité.
Puisque vous parlez de ça, la police, j'allais vous poser une autre question, mais c'est très bien. On peut en rappeler les principes. Comment ça fonctionnait?
Ça fonctionnait. D'abord, on avait augmenté de près de 8% les effectifs de police dans les zones de police, puisque à l'époque, la gendarmerie n'était pas placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Alors, cette police était formée, elle était équipée de manière à ce qu'il y ait toujours la polyvalence du travail et notamment la fidélisation des effectifs sur le territoire. Parce que je crois que c'est un des éléments, je pense que des CRS, si vous voulez, avec leur accoutrement, on ne les reconnaît pas. Et donc, c'est moins efficace que ne l'étaient, puisque hélas, il faut parler au passé, ne l'étaient des policiers insérés dans un quartier, se renseignant, ayant des dialogues avec les commerçants, avec les concierges. Bref, c'était une police qui faisait du travail et permettait l'élucidation d'un certain nombre de faits. Bon, M. Sarkozy, d'un revers de main, l'a discrédité en disant que c'était des policiers qui jouent au football avec les enfants. C'est complètement faux. Bill Buzet, je l'avais d'ailleurs dit dans un discours à Toul, que la police de proximité n'était pas faite pour jouer au football avec les enfants. Je signale qu'à Toulouse, qui est l'endroit même où Nicolas Sarkozy a annoncé la suppression de la police de proximité, les policiers de proximité ont été les premiers à se rendre auprès des victimes, des blessés de l'explosion d'AZF. Vous voyez, donc c'était vraiment très mal placé que de faire cette réflexion. Voilà, je pense qu'il fallait réaugmenter le nombre de policiers. C'est en train d'être fait depuis que François Hollande a été président de la République, mais c'est long de former des policiers. Et c'est pas simple de les former quand on a supprimé, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, la direction de la formation de la police nationale. Voilà, donc c'est un ensemble d'éléments qui me conduisent à penser que nous étions sur la bonne voie. Il faut du temps, c'est pas simple, c'est vrai, la société est complexe, mais je ne crois pas que ce soit par des coups de menton qu'on règle les problèmes.
Daniel Vaillant,
un efficace travail.
On se retrouve dans 3 minutes, ne quittez pas surtout. On écoute George L. Smith, Try Me.
Other than your needs, You got a lot left on these seats. Your heart's not on your sleeve. Try to believe me though. Gotta listen, gotta learn, gotta live, gotta fight, gotta earn, and your mind's made up. I say your mind's made up. Gotta live, gotta learn.
France Inter. Affaires sensibles.
Daniel Vaillant, pour ce qui concerne l'histoire qu'on vient de raconter, et aujourd'hui même, quand des policiers manifestent et critiquent la justice sur la place publique, comme on l'a revu il y a quelques mois, est-ce que, d'un point de vue républicain, c'est acceptable ?
Non, je pense que c'est très mauvais que des policiers manifestent pour des raisons qui leur appartiennent sans doute, mais je pense que la République mérite d'être servie indépendamment des polémiques entre les magistrats d'un côté, et je ne veux pas dire que les magistrats ne commettent pas d'erreurs, quelquefois. Vous savez, j'ai été au mur des cons, donc avec Manuel Valls, je crois.
Je me souviens.
Pas bien méchant, mais chacun comprend que il y a quelquefois des excès dans les comportements. Je pense que la République doit être sans faille. Le moins il y en a, le mieux on se porte. Les policiers formés, efficaces, visant à, réduire les risques et maintenir la liberté pour les citoyens, et la justice devant sanctionner sans faiblesse les actes répréhensibles et penser d'abord aux victimes. Je suis quelquefois surpris, y compris dans des reportages que je vois aujourd'hui, que les victimes ne sont pas la première priorité des décisions prises. Et moi, je pense qu'il faut d'abord penser aux victimes, qui n'ont rien fait pour être des victimes. Et il faut être juste, tout simplement, parce que il y aura toujours des délits, il y aura toujours des gens qui ne respectent pas la loi, la liberté des autres, la République dans son ensemble. Toujours il y en aura, mais le moins il y en a, le mieux on se porte.
Daniel Vaillant,
il faut des outils efficaces au nom de l'État de droit et au nom de la liberté, tout simplement.
Les syndicats de policiers, à l'époque des faits que nous avons racontés, ont transmis à la presse des dossiers de remise en liberté de détenus provisoires avec les noms des juges qui avaient pris ces décisions. Est-ce que vous avez pensé à un moment qu'ils étaient téléguidés par la droite ?
Je pense qu'il y a quelquefois des interpénétrations qu'on connaît. Moi, je ne veux pas... j'ai entendu M. Béchiza, qui était à l'époque, quand j'étais ministre, le patron du syndicat Synergie. Bon, alors depuis, il est maire d'Aulnay. Il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Comme maire d'Aulnay, il a vu que c'était pas si simple de maintenir la cohésion de la société au niveau même d'une municipalité. Voilà, je pense qu'il faut raison garder et que les syndicats sont indispensables. Et moi, je ne veux pas mettre en cause les syndicats, mais il ne faut pas tolérer que à des fins politiques, politiciennes ou électorales, on dise n'importe quoi, on mette en cause, des outils indispensables à la société. La justice est un outil indispensable à la société, et la police aussi. Moi, j'ai toujours été, vous savez, on m'a traité de sécuritaire au sein du Parti Socialiste, j'en suis pas mort, mais je pense qu'il faut que les uns et les autres ne soient pas, candidats à la polémique en permanence, parce qu'on n'aide pas les femmes et les hommes, notamment les victimes. Je pense qu'il faut avoir ce souci. Et il faut quelquefois qu'un ministre de l'Intérieur, je vous dis ça comme ça, mais se mette un peu en retrait, ne veulent pas diriger les enquêtes à la place de ceux qui sont là pour le faire. Je me souviens du drame de Toulouse avec Mera, vous vous rappelez ?
Ah bah oui, évidemment.
Je me souviens d'un ministre de l'Intérieur, qui est allé pour donner les ordres. Ça a été le foutoir. Parce qu'il faut laisser les policiers dans leurs responsabilités, dans leurs fonctions, et le ministre, il ne doit pas, pour passer à la télé, ne doit pas, à mon avis, vouloir prendre première place.
Vous savez que les ministres de l'Intérieur, à votre exception, peut-être quelques autres, sont souvent des gens qui se positionnent pour de grands destins, on l'a vu.
C'est un ministère très
exposé.
C'est, à mon avis, une grave erreur, je vous le dis, une erreur de comportement. Moi, quand j'ai été nommé ministre de l'Intérieur pour remplacer Jean-Pierre Chevènement, le Premier ministre m'a dressé une liste des priorités, et il y avait être efficace, sans arrêt apparaître sur les médias pour se tresser des lauriers. Voilà, on est là pour servir. On n'est pas là pour autre chose, on n'est pas candidat à la présidence de la République. avec le passage obligé qui serait d'être ministre de l'Intérieur.
Voilà, par Beauvau, oui. Dernière question, il nous reste que 45 secondes, sinon je serai obligé de vous couper, ce ne sera pas bien. Maintenant, il y a prescription, on peut se parler franchement, les faits datent de plus de 20 ans. Quelles ont été vos relations avec Elisabeth Guigou à l'époque, qui, elle, était ministre de la Justice?
Oui, écoutez, les relations étaient excellentes. Elisabeth est une amie. Elle a fait, mais oui, je vous le dis clairement, simplement, elle a donné des moyens aussi. Simplement, je pense que la loi présomption d'innocence qui a été votée par le Parlement, et très largement, il y avait des failles. Et celle notamment que j'ai évoquée, par exemple de la récidive, c'était une faille.
Bien.
Le fait que...
Bien, ça, fait que... Oui. Ça sera le mot de la fin.
Voilà.
Parce qu'il fallait un mot de la fin. Pardon de vous couper. Merci infiniment, en tout cas, pour vos éclairages et vos souvenirs. Au revoir,
bonne journée.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Bonal, dit le chinois, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Paola Collin.